Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13. Je suis maintenant avec Jean-Noël Riffel. Bonjour.
Bonjour Didier.
Directeur de l'Office français de la biodiversité de la région Centre-Val de Loire, vétérinaire de formation, naturaliste, ornithologue. Vous nous dédiez aujourd'hui 2 heures de votre temps et je vous remercie pour parler de vos 2 ouvrages. Nous commencerons par l'éloge des oiseaux de passage, publié aux éditions Équateur en mars 2023, puis de Aimer comme un albatros, également publié aux éditions Équateur en avril 2025. La première heure sera donc dédiée à ce premier livre et la deuxième très naturellement au second livre. J'ai envie d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Êtes-vous, Jean-Noël Riffel, le dernier amant du réel, le dernier à vous servir passionnément de vos yeux pour rendre justice aux féeries du visible? Je cite ici le biologiste Jean Rostand dans Le droit d'être naturaliste en 1963.
Alors disons que j'essaye, à mon modeste niveau, de transmettre cette émotion naturaliste qui plaisait tant à Jean Rostand. Il l'exprimait très bien par ses mots, être un amant du réel, rendre justice à toutes ces féeries du visible. Ces féeries du visible, c'est le vol d'un papillon, c'est l'envol d'un oiseau, c'est le surgissement d'un renard au coin d'un bois, c'est la première jonquille au printemps, c'est toutes ces choses-là qui nous entourent et qui nécessitent d'avoir une disposition du regard et, pour ce qui concerne les oiseaux, une qualité d'écoute. Pour y être attentif, parce qu'on perd un peu cette, on y reviendra sans doute, cette capacité d'attention au vivant qui nous relie à lui et qui est essentielle de travailler. Et c'est le sens de mes livres, transmettre cette émotion naturaliste qui met les sens à vif.
Effectivement, dans vos 2 ouvrages, et particulièrement dans le premier, Éloge des oiseaux de passage, il y a une critique du tout technologique, des écrans partout et tout le temps, de toute cette épilepsie contemporaine, comme vous l'appelez. Vous allez jusqu'à écrire qu'à cause des écrans, la contemplation des oiseaux n'a plus tout à fait la même saveur. Expliquez-nous.
On vit dans une époque, tout à chacun peut le ressentir, assez bouillonnante, fracassante même, et dans une forme d'épilepsie par nos notifications incessantes, par les tombereaux de mails qu'on peut recevoir au quotidien. Donc on est un peu des hommes pressés, des hommes et des femmes pressés, c'est vrai que cette observation des oiseaux ou de la nature, c'est un éloge de l'attente, un approfondissement de la patience, et ça permet de renouer avec une autre temporalité qui me paraît essentielle. Enfin, en tout cas, pour moi, elle l'est. C'est un peu mon antidote à cette épilepsie, et renouer avec une temporalité, je dirais, un peu bergsonienne, c'est-à-dire le temps dans sa durée qui s'écoule. Et quand vous êtes à observer les oiseaux, il y a un peu un état méditatif où vous êtes immergé, vous êtes immobile, parfois dans une posture d'affût, en solitaire par moment, vous avez vos sens ouverts vers ce qui se passe autour de vous. Parfois, il ne se passe rien. Parfois, vous espérez voir l'éclat d'une aile et vous ne verrez rien. Mais un jour, vous serez surpris par une apparition qui viendra vous combler. Donc voilà, donc c'est l'observation de la nature et notamment l'ornithologie, pour moi, est une manière de renouer avec le temps qui se consume, avec nos modes de vie dans lesquels on vit. Et c'est vrai que la technologie, je ne suis pas contre la technologie, loin de là, disons qu'elle nous éloigne, je trouve. On a les yeux davantage rivés vers le bas que vers le ciel, semble-t-il.
Être ornithologue, être naturaliste, c'est être perpétuellement en état de poésie, pour citer Novalis.
Oui, c'est-à-dire être dans un état, ce que disaient aussi les poètes, certains poètes dont Philippe Jacotet, dont Novalis, les romantiques allemands, ou Hölderlin, c'est dans un état d'accueillance, encore une fois, l'ouverture de l'être tout entier, dans une porosité des sens. En fait, je crois que c'est vraiment ça, cette notion-là, donc dans une forme d'attention, ce que je disais à l'instant, c'est d'être dans une disposition qui nous permet de capter ce peu du monde, presque rien, mais qui est déjà beaucoup et qui flamboie autour de nous. Et donc, il faut laisser la nature venir à nous. Il faut être dans une capacité à se laisser saisir, surprendre de ce peu de choses qui est loin d'être insignifiant. Pour moi, les oiseaux, leur apparition signe toujours le surgissement d'une grâce dans notre quotidien. Ce sont des petites épiphanies gratuites à la portée de tous, encore une fois.
Votre premier livre est dédié à 2 roitelets, je cite, il nous reste à savoir s'ils sont huppés ou à triple bandeau, vous nous direz la taille de leurs sourcils dans quelques instants. Comment vos enfants vivent cette passion justement? Avez-vous réussi à leur transmettre? Est-ce que eux aussi vous harcèlent pour, je vous cite, pister la loutre d'Europe dans le marais poitevin, dénicher une salamandre tachetée un soir pluvieux de mars dans la forêt de Chambord?
Alors effectivement, ce livre est dédié à mes deux enfants qui ont aujourd'hui 10 et 12 ans, bientôt 13, qui sont comme les enfants de leur génération, très tournés vers les écrans, très tournés vers les réseaux sociaux. Et donc c'est un combat quotidien de les arracher à ces écrans pour les connecter à la nature. En tout cas, je m'y emploie. C'est pas forcément facile, mais j'essaye en tout cas de leur transmettre ce goût de la nature qui passe par ces petites récréations buissonnières, c'est-à-dire aller observer les étoiles sur la pleine un soir de pleine lune, aller écouter la chouette hulotte ululer dans la nuit, aller effectivement dernièrement on a été observer des tritons dans une mare en forêt. C'est des petites choses comme ça qui les éveillent et qui permet, je pense que c'est très important de faire entrer ça durant l'enfance, de semer ces graines là qui germeront plus tard pour en faire des citoyens et une conscience verte. Et encore une fois, la connexion à la nature peut être salutaire dans les moments difficiles de la vie. Donc c'est aussi, voilà, leur transmettre ça. Donc j'espère que, c'est très important. Je pense que les parents, grands-parents s'emparent de ça pour le transmettre à leurs petits-enfants et enfants.
Vous parliez à l'instant d'école buissonnière et il y a quelque chose de l'ordre du programme politique presque dans votre ouvrage. Je vous cite la page 21. Il faut apprendre à regarder et ausculter les espèces animales et végétales, car cela requiert un long apprentissage dont les écoles devraient davantage s'emparer en accordant une plus grande importance à l'éducation des sens dès le plus jeune âge. Pourquoi ne pas enseigner à nos enfants à se servir d'une paire de jumelles, d'une loupe, d'un filet à papillons, afin qu'ils découvrent la complexité du monde et ses multiples imbrications? Alors, ensauvageons les cours d'école avec des enrochements propices aux plantes de rocaille, des buissons, des fleurs mellifères, des mares, des buttes de terre, des espaces naturels recelant moult recoins de jeux et des mangeoires durant l'hiver. Nos enfants ont besoin de grimper aux arbres, de construire des cabanes de bois, de s'imaginer baron perché, de jouer les aventuriers façon Huckleberry Finn, de se muer en véritable Sherlock Holmes à la recherche des indices laissés par les animaux. Bref, pensons à cultiver les récréations buissonnières. Comment se traduit politiquement, Jean-Noël Riffel, la question ornithologique, la question naturaliste ?
C'est une injonction à vivre dehors. Moi, je pense, voilà, moi, j'ai été bercé par les lectures de Marcel Pagnol, de Jean Giono, justement, qui encourage cette vie dehors, voilà, cette vie dehors qui nous comble. La définition de l'homme augmenté, c'est pour moi pas la définition muskienne. C'est l'homme qui est capable, encore une fois, l'homme ou les enfants, capable de se servir de, d'avoir une vue d'épervier, des oreilles de chauve-souris et un odorat de renard. C'est ça, la définition de l'homme augmenté, n'en déplaise à Elon Musk. Et je pense que ça, évidemment, ça passe par, encore une fois, cette relation au sensoriel. La nature, c'est à la fois des émotions qui vous percutent, c'est de l'émerveillement. Donc, gardez toujours ce pouvoir d'émerveillement et ça passe par les sens. C'est-à-dire, ce sont des odeurs, ce sont des visions, des apparitions furtives qui viennent vous combler la rétine. Ce sont des bruits aussi qui vous connectent à des... Quand vous, je citais à l'instant la chouette hulotte, ça vous connecte quand même à quelque chose d'assez primitif qui vient vous saisir et qui vous colle la chair de poule. Donc ça, c'est transmettre ça à nos enfants. Donc les écoles ont un rôle à jouer, effectivement. Là où je travaille à l'Office français de la biodiversité, on a un dispositif qui s'appelle les aires terrestres éducatives et les aires marines éducatives. Ce sont des projets que s'empare une classe de scolaires avec leurs professeurs, avec en lien avec nous et avec les associations de protection de la nature, où elles s'emparent d'un petit, d'une friche, d'une mare, d'une cour d'école, voilà. Et ils mettent en œuvre, dans le cadre d'un parcours pédagogique sur l'année, des petits gestes qui font revenir la biodiversité. Ils l'observent et ils font des constats, voilà. Et ça, c'est des petites choses, mais ce sont des dispositifs très importants, ce qui s'inscrivent notamment dans la stratégie nationale biodiversité 2030. Ces aires terrestres éducatives, c'est un dispositif parmi d'autres qui permet de relier ces jeunes à l'école vers la nature. Et encore une fois, l'école peut pas tout faire, donc il y a aussi le rôle des parents et des grands-parents dans cette transmission-là, dans cet appétit pour le vivant. Parce que je rappelle quand même qu'on traverse une crise de sensibilité à la nature, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, ça a été dit par plein de philosophes, dont Baptiste Morisot. Et cette crise de sensibilité, il faut la lutter par cette reconnaissance au sauvage. Et ça passe pour moi par les sens, incontestablement.
Je disais au début de cet entretien que vous êtes directeur de l'OFB de la région Centre-Val de Loire. Peut-être parlez-nous de cette institution. Qu'est-ce que l'OFB ? Qu'est-ce que l'Office français de la biodiversité ?
Alors, l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public administratif qui a été créé le 1er janvier 2020, qui est placé sous la tutelle du ministère de l'écologie et du ministère de l'agriculture et qui est chargé enfin qui a été créée parce qu'on a fait le constat que on traversait une sixième extinction de masse, c'est-à-dire un effondrement, c'est bien le terme, effondrement de la biodiversité, cette biodiversité dont on fait partie, qui est un bien commun qui nous concerne tous et toutes. Cet effondrement, faut savoir que la sixième extinction de masse, la cinquième, c'était les dinosaures au Crétacé. Hein. Donc on le voit dans notamment tous ces chiffres dont on entend parler, perte de 800 millions d'oiseaux en 40 ans en Europe, la diminution de 80% des insectes en 30 ans pardon en Europe, la perte de quasiment 70% des vertébrés en l'espace de 50 ans. Donc on voit bien que tous les signaux sont au rouge et qu'il faut agir. Voilà, et que c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire que c'est l'homme qui par son action, par sa manière d'habiter la planète, de se nourrir, de voyager, de se loger, de se soigner, est responsable de cet effondrement. Et donc l'OFB a été créé pour justement restaurer cette biodiversité aquatique, terrestre et marine qui est aujourd'hui fortement menacée. Donc dans ses actions au quotidien, l'OFB, qui est un établissement encore une fois public, donc il y a à peu près 3000 agents au niveau national, moi en région Centre-Val de Loire on est 115 agents, on a trois missions principales, c'est un continuum de missions, c'est des missions de connaissance des espèces et des milieux, parce que c'est important de connaître pour savoir l'état des populations et brandir un thermomètre, si vous voulez, pour être un peu caricatural, sur l'état des populations avant de prendre des politiques publiques de protection. Donc c'est d'abord des missions de connaissance sur le loup, sur les espèces de poissons migrateurs, notamment sur la Loire, sur les oiseaux, les insectes, etc. Et puis derrière des missions de contrôle, c'est-à-dire qu'on est un établissement qui réalise de la police de l'environnement, c'est-à-dire qu'on vient contrôler les usagers de la nature, quels qu'ils soient, pour éviter qu'il y ait des atteintes environnementales. Et puis la troisième mission, après connaître, contrôler, c'est mobiliser, c'est-à-dire mobiliser la biodiversité, je le disais, ça nous concerne tous, il faut mobiliser l'ensemble des pans de la société civile pour que chacun s'en empare à son petit niveau, et que ce soit les entreprises, les élus locaux, les agriculteurs, l'ensemble des usagers et vous comme moi.
Et vu que nous avons pris cette voie-là, continuons à interroger l'aspect politique de votre appétit naturaliste, vous écrivez dans l'ouvrage, donc votre premier ouvrage, Éloge des oiseaux de passage, publié chez Équateur, ceci, je vous cite, « Mon choix de vie est arrêté, fréquenter avec assiduité la lisière du monde, là où deux espaces différents se rencontrent, le monde humain et le monde sauvage, je désirais une existence en marge, en bordure des choses, dans l'éclat du vagabondage, une existence finalement assez éloignée de celle à laquelle les chemins de vie m'ont conduit aujourd'hui. » Vous donnez là en fait l'autre définition de la frontière. C'est l'autre définition de la frontière que vous donnez à voir. Et ce serait pas mal que nos amis politiciens aient cette lecture-là aussi. La frontière n'est plus un espace de séparation, mais peut devenir un espace de rencontre, où l'autre comme moi, est accessible et peut-être même accueillant.
Ah oui, oui, aux frontières, il se passe des choses voilà, effectivement, qui sont... Enfin, moi, j'aime la notion de lisière que vous évoquiez, de vagabondage, alors ça renvoie à la notion du Wanderer, hein, du romantisme allemand, mais dans les lisières, c'est-à-dire, par exemple, moi, quand je suis en bord de mer, quand je suis sur les bords de Loire, quand je suis dans une clairière limite entre une prairie et une forêt, vous êtes à un carrefour où, effectivement, il y a des oiseaux migrateurs, des espèces de la nature qui apparaissent, qui disparaissent. En fait, vous êtes à... Il y a des chassés croisés entre des espèces de milieux agricoles, des milieux forestiers, des milieux littoraux, voilà, des milieux plus terrestres. Et c'est des endroits, en fait, je trouve, des postes d'observation privilégiés pour la nature moi, me plaisent énormément. Et donc, j'ai fait un peu le parallèle, évidemment, avec moi, la manière dont je conduis ma vie. C'est-à-dire que je suis dans l'action au quotidien sur la préservation de la biodiversité dans mon action en tant que directeur régional de l'Office français de la biodiversité en région Centre-Val de Loire. Et à côté de ça, je cultive une voie de l'attention pour le vivant et un émerveillement. Voilà. Donc c'est une oscillation, si vous voulez. C'est une oscillation entre l'action et l'émerveillement. L'une et l'autre se nourrissent et pour moi sont indispensables dans ma vie.
Et votre premier émerveillement, votre expérience fondatrice, ça a été une rencontre avec un bouvreuil pivoine. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ?
Oui, c'est-à-dire que moi, je suis un citadin. J'habitais dans les Hauts-de-Seine. Voilà, je suis originaire des Hauts-de-Seine et j'ai passé mes études vétérinaires à Maisons-Alfort, pas très loin d'ici. Voilà, donc j'ai commencé j'avais pas des parents naturalistes, mais j'avais d'abord commencé à découvrir les oiseaux par les livres, notamment d'illustres ornithologues, Paul Giroudet, et Jacques Delamain qui nous ont beaucoup apporté en termes de témoignages et de connaissances sur les oiseaux. Et j'ai commencé à dessiner, alors je suis un piètre dessinateur, mais j'ai commencé à dessiner notamment ce bouvreuil pivoine qui est un oiseau très très beau parce qu'il a un plumage rouge vif, écarlate, absolument superbe.
Oui, vous comparez le rouge de son poitrail au rouge de la mosette de satin du pape Innocent X peint par Velázquez, ce fameux portrait de 1650 où les tons rouges se superposent sans s'écraser.
Absolument, voilà, c'est une évocation picturale. Voilà, c'est un oiseau d'un chromatisme fou. Et donc j'ai commencé moi à dessiner ces oiseaux-là. Et un jour, je l'ai vu, cet oiseau, par hasard, dans le jardin familial, dans les Hauts-de-Seine, à Saint-Cloud, où j'habitais, donc j'étais petit. Et je me souviens de l'avoir vu dans un paysage hivernal où il y avait effectivement plus une seule feuille dans les arbres, et ce rouge vif qui venait éclater au milieu du paysage, qui était... voilà, qui fixait complètement le regard, qui est un puits d'attention majeur, alors que le ciel était gris. Et je me souviens de ce moment de sidération émotionnelle. Et je dis que c'est à ce moment-là, notamment, que je suis tombé dans la marmite des oiseaux. Et que les oiseaux sont rentrés en moi et m'ont jamais quitté. Donc c'est à la fois... et ce bouvreuil en est vraiment une illustration, qui est un oiseau d'ailleurs menacé, qu'on voit de moins en moins.
Effectivement, vous l'écrivez d'ailleurs, hein, l'arrachage des haies et des bosquets dans les milieux agricoles, la disparition du bocage, le débroussaillage des sous-bois et le réchauffement climatique déciment les populations reproductrices de bouvreuil pivoine. Une diminution des effectifs de 64% a été observée depuis 1989, dont 41% depuis 2001.
Tout à fait. C'est un oiseau que aujourd'hui je ne vois plus dans le jardin de mes parents, alors que je le voyais il y a quelques années. Donc c'est un oiseau qui remonte plus au nord et qui disparaît et qui est menacé par les facteurs que vous veniez de citer. Et donc moi, c'est les oiseaux sont entrés en moi, la facteur moi petit citadin qui ne connaissait pas particulièrement la nature au départ, sont entrés en moi à la faveur de trois choses: ces lectures, ces rencontres là sidérantes avec certains oiseaux, et puis via aussi certaines personnes ensuite qui m'ont aidé à poser le regard sur les oiseaux, parce que ça s'apprend. Les oiseaux se dérobe très vite au regard, et donc il faut être encouragé dans cette voie pour pas perdre parfois patience ou tomber dans trop de frustration en se disant j'y arriverai jamais à observer cet oiseau.
Et les oiseaux sont-ils entrés en vos enfants? Avez-vous donné vos premières jumelles à votre enfant? Je vous cite: mes jumelles sont devenues aujourd'hui le prolongement de mes yeux. Ce fil qui me relie aux oiseaux est comble maritime. Je les ai traînées partout avec moi. Elles portent les stigmates du terrain en coche, cou, salissure. Lorsque mon fils aura 10 ans, elles seront à lui un passage de témoin en quelque sorte.
Oui, elles sont toujours là. Vous voyez, je suis venu en voiture aujourd'hui. Elles sont dans la boîte à gants de mon véhicule. Donc, je suis toujours prêt à les dégainer, à m'arrêter pour les dégainer et observer davantage certains oiseaux qui viennent traverser mon quotidien. Je les ai effectivement transmises à mon fils aîné et il les utilise. Il serait mieux placé que moi pour vous répondre s'ils aiment observer les oiseaux. Je pense que parfois je les bassine avec ma passion. Voilà, j'en ai conscience. Et que parfois ils ont attendu longtemps dans la nature pour essayer d'observer quelque chose et finalement ils étaient un peu déçus. Je pense qu'ils ont malgré tout développé cet œil attentif. Voilà. Et quand il y a un oiseau qui traverse le paysage, à plus d'une fois, ils me disent: ah, tiens, papa, regarde ce qu'il y a là. Ce qui me montre qu'ils ont ce réflexe-là, cet automatisme-là, qu'ils ne perdront pas, je pense.
Vous le disiez, vous avez bassiné vos enfants, votre famille avec cette passion. Peut-être même que ça vous a coûté sentimentalement. On aura l'occasion, je pense, de l'aborder avec le second ouvrage dans la deuxième heure de cet entretien, avec Aimer comme un albatros. Mais revenons maintenant sur un aspect très intéressant de ce premier livre, Éloge des oiseaux de passage. Vous évoquez une géographie par les oiseaux. En voyage, les oiseaux sont mes premiers repères. Découvrir et appréhender un pays, c'est en premier lieu pour moi aller à la rencontre de ce peuple aérien. La géographie par les oiseaux, je vous cite. Alors permettez-moi de revenir sur une expérience que j'ai vécue, mais effectivement, j'ai découvert le Japon en octobre dernier. Les endroits par où je suis passé étaient absolument renversants. C'était un voyage tout à fait marquant pour moi. Et il a été aussi grâce aux oiseaux. Voyez-vous, je crois que je n'oublierai jamais ma première vision d'un zostérospe du Japon. Je n'oublierai jamais le cri alarmant du bulbule à oreillons bruns. Ce petit monticole merle de roche aperçu en haut d'un temple à Kamakura se rappellera longtemps à ma mémoire. Les mille en noir dans le sel de Kyoto aussi. Il est vrai que je suis revenu du Japon avec, et c'était la première fois, une mémoire ornithologique. Donc plus qu'une géographie par les oiseaux, c'est aussi la possibilité du souvenir par les oiseaux.
Tout à fait, c'est très beau d'ailleurs ce que vous avez cité, c'est très poétique, c'est tous ces noms, hein, vous venez de dire. On les imagine bien évidemment. C'est aussi la musique d'un pays, c'est-à-dire la musique de la nature d'un pays. Il y a une musicalité différente des chants d'oiseaux là-bas que chez nous. Donc c'est quelque chose qui nous aide à appréhender aussi la nature d'un pays. Moi, c'est une entrée effectivement qui se fait... par automatisme. C'est-à-dire quand je vais quelque part, alors je suis pas monomaniaque des oiseaux, donc je suis aussi tourné vers l'architecture, vers la rencontre avec les populations locales, etc. Mais les habitants, mais
oui, et puis d'un point de vue naturaliste, vers toute la biodiversité en général.
Vers toute la biodiversité en général. Mais c'est vrai que je ne peux pas aller dans un pays en me disant je vais faire abstraction des oiseaux qui le peuplent. Encore une fois aussi, les scientifiques ont montré que les oiseaux ont des patois aussi. Hein, ils ont une langue. Puisque vous citez le Japon, il y a un scientifique japonais qui vient de sortir une étude sur la mésange de Chine, de mémoire, qui montre que ces mésanges ont la capacité de jouer avec de la grammaire, c'est-à-dire qu'elles produisent de la grammaire, une langue, et construisent presque des phrases. Et ça, c'est quand même assez fascinant. Et donc, se connecter, les oiseaux, en tout cas, nous connectent à la langue aussi, à leur langue du pays dans lequel ils résident. Et effectivement, moi, quand j'entends... chanter le loriot ou le hibou, ça me fait remonter effectivement beaucoup de souvenirs. C'est assez proustien, finalement, ça fait un peu comme ça fait remonter.
C'est votre Madeleine.
C'est ma petite Madeleine à moi, voilà, et ça fait remonter bien des souvenirs à chaque fois, et des émotions, des évocations, des images, que ce soit en voyage ou en France.
Et d'ailleurs, dans les mémoires d'Outre-Tombe, la Madeleine proustienne, dans les mémoires d'Outre-Tombe, la Madeleine de Chateaubriand est la grive musicienne.
Absolument.
Il réécoute une grive musicienne et ça le renvoie en enfance. Donc finalement, la grive de Chateaubriand et la Madeleine de Proust. Comment fait-on, Jean-Noël Riffel, pour intéresser les gens à ce dont on parle depuis tout à l'heure? Peut-être qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui, depuis 20 minutes, s'emmerdent, disons-le franchement, à entendre deux types à la radio parler de nature, parler de biodiversité, parler d'oiseaux. Comment fait-on pour intéresser la population?
Alors, au-delà des aspects poétiques qu'on peut citer, émotionnels, etc., je pense qu'il y a le destin des oiseaux, notre destin intimement lié déjà au destin des oiseaux, au destin des insectes. C'est-à-dire que on peut se dire les oiseaux, c'est joli, c'est le décorum, c'est comme les petites plantes, les petites fleurs, etc. On trouve ça beau, puis après on oublie. Non, en fait, aujourd'hui, je citais des chiffres tout à l'heure, l'effondrement des populations d'oiseaux doit nous interpeller, encore une fois, sur la manière dont on habite cette planète. Parce que les oiseaux, ce sont des bio-indicateurs de la santé de nos écosystèmes. Et donc, si on a des écosystèmes qui sont malades, ce qui est le cas aujourd'hui, disparition des zones humides, des parcelles agricoles où il y a moins de haies, etc., et plus d'intrants préjudiciables à la santé, des espèces et de l'homme, ça doit, encore une fois, nous pousser à agir pour contrer tout ça. Donc, les oiseaux, notre sort est intimement lié au sort des oiseaux, des insectes, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule santé. Donc, l'angle de la santé, si vous voulez, santé environnementale, santé animale, santé humaine, tout ceci est intimement lié à ce qu'on appelle One Health, une seule santé. Donc si la santé des oiseaux trinque, c'est la nôtre aussi qui va trinquer derrière. Vous savez aujourd'hui que les grandes causes de disparition des oiseaux, c'est le changement climatique, l'artificialisation des sols et puis les produits phytosanitaires préjudiciables qui font diminuer les insectes. Donc je pense que l'angle de la santé est quelque chose qui peut nous intéresser, voilà, en disant que cette biodiversité, si elle est malade, bah, c'est nous aussi qui allons demain... on parle quand même de l'habitabilité de la planète, hein, de la manière dont on peut continuer à vivre sur cette planète. Voilà, c'est ça. Et puis, une autre étude aussi qui est sortie récemment montre que quand on écoute 6 minutes par jour la grive musicienne ou certains oiseaux chanteurs, comme en ce moment au printemps. Ça fait du bien à la santé mentale. Vous pouvez le ressentir très facilement au bout de 6 minutes, voilà. D'autre part, ça fait baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress, et donc ça fait du bien au cœur et au cardiovasculaire. Donc encore une fois, les oiseaux ont un effet bénéfique sur la santé, sur notre santé. Leur rôle est précieux. Ils contribuent à la pollinisation, ils contribuent à la lutte contre les ravageurs. Les vautours, ce sont des écarisseurs naturels qui évitent la propagation de maladies et de fléaux de l'élevage, mais aussi de l'homme. Vous savez que les vautours, un exemple très concret, hein, en Inde, Lorsque les vautours, ils ont traité avec un anti-inflammatoire les bovins, les vautours se sont contaminés, ont disparu. Ça a engendré une surpopulation de chiens errants qui sont venus consommer les cadavres de bovins que les vautours ne consommaient plus parce qu'il y en avait moins. Et ça a engendré une circulation de rage. Et l'homme a été, par ricochet, l'homme a été affecté. Il y a eu beaucoup de mortalité. Donc encore une fois, le sort des oiseaux, le sort de l'homme, tout est lié. Et je terminerai là-dessus, un oiseau qui disparaît, pour moi, c'est, vous l'avez compris, de la beauté qui s'efface et du silence qui s'étend. C'est comme si on allait retirer, je pourrais dire, la Joconde au musée du Louvre, un beau tableau ou lapis de Monet au musée d'Orsay, qu'on viendrait décrocher.
Et surtout que ces disparitions entraînent nécessairement une banalisation de certaines espèces. Je pense ici au pigeon biset, au pigeon ramier, au pie bavard de corneille noire, aux maisons charbonnières. Et cette banalisation entraîne en fait une uniformisation de la biodiversité aviaire.
Tout à fait. Ça, c'est été démontré scientifiquement par des études du Muséum d'Histoire Naturelle qui montrent que aujourd'hui, on a une uniformisation du cortège des espèces, d'oiseaux notamment, pour des espèces qui arrivent à s'adapter davantage que d'autres, notamment au changement climatique. Et cette si on a un vivant moins riche, moins diversifié, on est plus vulnérable, encore une fois. Moi, je fais souvent le parallèle avec des écosystèmes qui sont riches en biodiversité. C'est comme s'ils avaient une immunité forte, comme s'ils avaient beaucoup d'anticorps pour faire face, comme nous, à des maladies, des dépressions, changement climatique ravageur. Donc, cette uniformisation du vivant qu'on observe ici, à Paris et ailleurs, comme vous le dites, avec des cortèges d'espèces qui se réduit, une biomasse qui se réduit. Ce sont des signaux qui doivent nous alerter.
Et nous avons ici Jean-Noël Riffel, un auditeur qui réagit à ce que j'ai dit il y a 5 minutes.
Bonjour Didier. Bien ce que vous voulez. Mais moi, pour moi, c'est une très 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 belle émission. Notamment parlant des oiseaux, les animaux et tout ça, la vie de la planète. Et ça, c'est très très bien. Surtout les oiseaux, je suis un fanatique. J'adore toutes les espèces des oiseaux. Tout. Donc non, je ne m'emmerde pas à entendre deux hommes parler à la radio.
Et tant mieux. Donc, il faudrait que tout le monde, finalement, Jean-Noël Riffel, attrape cette maladie décrite par Peter Cashwell, ornithologue et enseignant d'anglais en Virginie. La fascination pour les oiseaux, le birding compulsive disorder, autrement dit, la névrose obsessionnelle des oiseaux. C'est une maladie qui existe.
Alors, sans aller jusqu'à la névrose, je pense qu'il faut, on peut se contenter de, d'une addiction légère,
légère et souhaitable. Jean-Noël Riffel, les guetteurs d'instant, je reprends votre expression, existent-ils encore aujourd'hui? C'est une espèce menacée, presque autant finalement que grand nombre d'oiseaux.
Oui, il y en a, ils existent. Moi, j'ai la chance d'en côtoyer. Ce sont des passeurs d'émotions, des passeurs d'informations, de connaissances, de terrain, des gens qui, ces guetteurs d'instant, qui sont toujours à la recherche, je dirais, de l'oiseau envolé. C'est pas la recherche du temps perdu, c'est la recherche de l'oiseau envolé.
C'est titre du troisième ouvrage.
ces gens-là ont. Encore une fois, rendre justice à la beauté du vivant, qui est quelque chose qui nous dépasse. Moi, je trouve qu'il y a une forme de quelque chose d'assez sacré dans tout ça. Moi, je l'ai écrit, les oiseaux, pour moi, sont des nuées sacrées. Voir s'émerveiller de cette biodiversité qui est phénoménale sous plein d'aspects, dans les interrelations qu'il peut y avoir entre les espèces, s'émerveiller de voir en ce moment les oiseaux faire des parades nuptiales. Vous entendez les pics tambouriner qui se font face à face sur des troncs. Comme vous voyez, les parades, on parlera tout à l'heure d'albatros qui sont fascinantes, c'est des pantomimes, etc. Et ça transfigure les oiseaux, et ces guetteurs d'instant sont ces gens qui sont capables d'entrer en intimité, déjà en immersion et en intimité avec la nature. Et quand vous êtes capable de ça, la nature vous délivre des certains nombre de secrets. Les oiseaux ont des secrets, il faut savoir entrer dans cet état-là dont on parlait tout à l'heure, d'accueillance, de patience, d'immobilité, pour se connecter. Donc ces guetteurs d'instant sont des gens qui développent des valeurs, me semble-t-il, assez essentielles, qu'il faut tenter à son niveau de stimuler dans notre époque, qui nous éloigne vraiment de ça.
Parlez-nous du pishing, Jean-Noël Riffel. Je vous cite donc dans l'éloge des oiseaux de passage, toujours aux éditions Équateur. J'ai appris à utiliser de manière raisonnée la technique du pishing, anglicisme désignant les sons du type psh, 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 ou
vous faites très bien.
réalisés avec la bouche pour attirer les mésanges et ainsi mieux les observer. Ces sons imitent les cris d'alarme de certains passereaux, mésanges, pinsons ou fauvettes, et attirent immédiatement la curiosité d'une volée d'oiseaux prêts à chasser un éventuel intrus, un rapace, un chat de passage, un subterfuge qui marche du tonnerre. Qu'est-ce que le phishing, Jean-Noël Riffel?
Alors oui, c'est un petit subterfuge. Alors faut le manier avec précaution, vous l'avez dit, pour ne pas déranger les espèces. Mais c'est vrai que par moments, notamment vis-à-vis des mésanges, quand vous arrivez à faire ce pish 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 comme ça dans un buisson, elles sont curieuses, elles viennent voir un petit peu ce qui se passe et se rapprochent de vous. Donc c'est une petite technique de terrain qui permet parfois de faciliter l'observation de certaines espèces, comme peut l'être aussi le cas, encore une fois, si c'est fait avec de manière proportionnée. Et c'est aussi la repasse, c'est-à-dire passer le champ, parce que vous savez que le champ, c'est aussi une vertu, enfin c'est un rôle territorial chez les espèces d'oiseaux, voilà, et chez les passereaux notamment. Quand vous passez le champ, par exemple, si vous passez le champ d'un rouge-gorge dans votre jardin, si vous avez un rouge-gorge, je pense qu'il va rapidement venir voir si un intrus est là, voilà, qui vient concurrencer ses souhaits de séduction de sa bien-aimée.
Surtout le rouge-gorge en plus, qui est concurrencé absolument toute l'année, puisqu'en hiver il se fait concurrencer par ceux du nord qui descendent en France, et puis le reste de l'année ceux qui sont partis dans le sud qui remontent.
Tout à fait. Et puis c'est un oiseau particulièrement querelleur et belliqueux vis-à-vis de ses congénères. Donc oui, ça c'est aussi un autre exemple, cette repasse, c'est-à-dire passer un champ pour faire sortir un oiseau d'un buisson. Mais encore une fois, faut le faire avec doigté pour éviter de générer un stress chez les espèces d'oiseaux.
Dans votre ouvrage, vous évoquez aussi à la fin de votre livre les cris d'oiseaux, le sound approach anglo-saxon qui étudie les fight calls. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela?
Alors, les oiseaux, en fait, ils émettent, ça c'est quelque chose vraiment, l'ornithologie acoustique, la bioacoustique, c'est quelque chose qui se développe. On apprend beaucoup de choses sur les chants des oiseaux. Les oiseaux ont, je vous disais, parlé tout à l'heure, ils ont une grammaire, maintenant on commence à comprendre qu'ils ont une langue avec une grammaire. En fait, ils émettent des chants en vol, les flight calls. Effectivement, ils émettent des chants d'alerte, des chants liés au nourrissage, des chants de contact, enfin des cris de contact, pardon, et puis des chants territoriaux. Et en fait, cette approche sonore nous a appris énormément de choses. C'est-à-dire, et donc la connexion aux oiseaux passe aussi beaucoup par l'oreille, parce qu'on est des êtres éminemment visuels. Vous savez que le sens visuel vient supplanter tous les autres sens chez nous. Et donc chez les oiseaux, en fait, quand vous êtes attentif à un paysage sonore, vous arrivez à détecter les espèces qui ne se montrent guère, comme je pourrais citer le loriot d'Europe qui se cache toujours dans les hautes frondaisons, donc c'est frustrant, mais vous pouvez le détecter au chant. Et donc être en capacité d'être attentif à ses chants, ses cris, etc., ça permet de déterminer les espèces en présence, voilà, d'avoir une lecture plus augmentée du paysage naturel qui vous entoure.
Et nous avons ici un autre message vocal d'une auditrice cette fois.
Bonjour Didier. J'envoie ce message pour vous dire merci, Didier, pour cette belle émission. Non, on s'ennuie pas à entendre parler d'oiseaux. Au contraire, on est très heureux. J'ai mon mari à la maison qui est super, super heureux de vous entendre. Moi aussi. La radio, c'est ça aussi, c'est l'information. On apprend beaucoup de choses avec vous. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et c'est vrai, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur de vous entendre. Et on a besoin des abeilles, on a besoin des oiseaux, on a besoin de tout pour que le monde continue. La nature, c'est vraiment magnifique. J'espère sincèrement qu'il y aura d'autres occasions d'en parler parce que ça nous fait plaisir, vraiment. Merci Didier, merci Radio Alpha et merci au monsieur qui vous accompagne. Merci.
Et ce monsieur qui m'accompagne s'appelle Jean-Noël Riffel. Il est le directeur de l'Office français de la biodiversité de la région Centre-Val de Loire, vétérinaire de formation. Je le rappelle, naturaliste, ornithologue, mais aussi auteur, écrivain. Il a publié en mars 2023 Éloge des oiseaux de passage. C'est le livre dont nous parlons maintenant. Et en avril 2025, Aimé comme un albatros, deux livres publiés aux éditions Équateur. C'est le genre de message qui fait chaud au cœur, Jean-Noël.
Oui, on sent l'émotion et la sensibilité à la nature de vos auditeurs, de votre auditrice là, dernièrement. Et ce qui me touche aussi, c'est que chacun d'entre nous a toujours une anecdote, moi, en rencontrant les gens lors des dédicaces de mes ouvrages. Tout le monde a une anecdote sur une espèce d'oiseau, voilà. Et ça, je trouve ça génial. C'est chacun d'entre nous a ces petites histoires là qui sont formidables de les raconter. Alors moi, on vient de les raconter, donc je suis toujours très ému de les écouter. Mais c'est très important aussi de les transmettre à ses petits enfants, voilà. Et je sens que chez vos auditeurs, il y en a vos auditeurs regorgent d'anecdotes, à mon avis, en la matière.
Ils sont voilà. Persuadés aussi. À la fin de votre premier livre, vous dédiez un chapitre aux cocheurs et aux gags. Alors expliquez-nous peut-être ce que c'est avant que je vous pose ma première question. Qu'est-ce qu'un cocheur? Qu'est-ce qu'un gag?
Alors, un cocheur d'oiseaux, c'est quelqu'un qui a comme objectif de voir le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux sur la planète. Alors, vous savez qu'on a à peu près 10 000 espèces d'oiseaux sur la planète. En France, il y a un classement des cocheurs. Alors, c'est quelque chose qui vient un peu du Royaume-Uni. Et en fait, ce sont...
De toute façon, pardon, dès qu'on parle d'ornithologie, à peu près tout vient du Royaume-Uni. Ils ont une avance par rapport à nous qui est énorme.
Tout à fait. Et puis, ils ont des associations de protection de la nature très organisées, avec beaucoup d'adhérents. Ils font des choses formidables. Ils sont effectivement en avance sur nous. Ils font des journées dédiées aux oiseaux. Enfin, vraiment, ils ont des initiatives formidables. Alors, la LPO fait des très belles choses aussi en France, mais c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre, en tout cas, des Anglais, notamment en la matière. Et donc, ces cocheurs d'oiseaux, c'est une addiction, on dirait, à la consommation d'oiseaux, et notamment d'oiseaux rares. Et là, pour le coup, peut-être que ça peut aller jusqu'à la névrose dans certains cas. Moi, j'ai été un peu cocheur à mes débuts. Je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à voir le plus d'oiseaux possible. Etc. Mais ça vous emmène parfois à faire des voyages avec un bilan carbone qui est pas très raisonnable vu l'état de la planète. Ça vous amène à être dans une consommation frénétique où vous perdez le sens en fait de ce qui fait le sel de l'observation des oiseaux. Et donc voilà. Mais par contre, les cocheurs d'oiseaux sont souvent des personnes qui ont passé tellement de temps dans la nature à observer les espèces d'oiseaux, qui ont des connaissances absolument fascinantes, incroyables, et plein d'anecdotes aussi à vous raconter sur les oiseaux qui sont allés chercher à l'autre bout du monde ou voir, tenter de voir.
Eh ben oui, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est bien vu d'être un cocheur? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est mal vu dans le milieu ornithologique d'être un accumulateur de coches, parce que ça se fait souvent, vous le disiez, au détriment de l'oiseau lui-même. La compétition entre cocheurs génère inévitablement des excès.
Oui, ça génère des excès, comme parfois dans toute forme de compétition. Il faut une éthique, il faut garder une éthique. Je pense que c'est ça qui est important. Ça commence à se développer, j'ai le sentiment. Voilà, et ça, c'est une bonne chose. Donc, il y a les pro-coches, les anti-coches. Ça, voilà. Moi, je porte pas de jugement là-dessus. Je pense qu'il faut garder son éthique, en tout cas, dans sa manière d'observer, d'approcher la nature. Encore une fois, il y a des cocheurs aussi qui ont fourni d'énormes données, enfin beaucoup de données scientifiques hyper intéressantes qui nous ont permis de mieux comprendre aussi certains phénomènes. Je vais citer un exemple, par exemple le pouliot à grands sourcils, qui est une espèce qui vient de la lointaine Sibérie, entre autres, enfin voilà, de la Russie.
Le PGS,
voilà, pas le PSG, mais le PGS, et qui est un pouliot, voilà, donc c'est un petit oiseau qui a un sourcil jaune, voilà, qui est un peu entre le roitelet, je dirais le roitelet triple bandeau et le pouliot véloce. Si vous voulez, c'est un peu un mélange, qui a des barres à l'air, et qui est un oiseau qui est venu se perdre, qui normalement part en Asie du Sud-Est en migration, et qui fait une migration inversée, et qui est observé notamment en Europe, notamment en France, et ça a été documenté, notamment par des cocheurs qui, au départ, ont découvert ce qu'ils appellent ce gag, cet oiseau égaré,
qui n'a rien à faire. Ah, donc un gag est un oiseau égaré.
Un gag est un oiseau qui n'a rien à faire en France.
D'accord.
Si vous voulez, par exemple, voilà, pour vous un peu schématiser les choses. Et donc, dernièrement, on a eu des gags qui sont arrivés. On a eu un martin pêcheur d'Amérique qui était observé dans les Côtes d'Armor en Bretagne, au fin fond des Côtes d'Armor, qui est sans doute un oiseau c'est un oiseau qui vit en Amérique du Nord et qui est arrivé. On ne sait pas comment. On pense qu'il a été, il a dû se poser sur un bateau qui a dû l'aider à traverser l'Atlantique, et il a généré un afflux de cocheurs, donc des milliers d'observateurs d'oiseaux rares, mais pas que rares, sont venus voir cette attraction-là dans ce petit coin perdu de la Bretagne.
À Glomel, c'est ça?
À Glomel. Je vais vous faire une confidence, je suis allé le voir. Voilà. C'était un petit détour, enfin, à la lumière de mes vacances. Voilà.
Et alors, cette effervescence va dans les deux sens, puisque nous avons eu un martin pêcheur d'Amérique, mais alors il s'avère que les ornithologues canadiens et les naturalistes canadiens étaient absolument émerveillés il y a encore quelques semaines à cause d'un rouge-gorge. C'est-à-dire que nous, le rouge-gorge familier, on le voit a priori dans nos jardins, et le Canada s'est arrêté, le JT de 20h du Canada s'est presque ouvert sur l'apparition d'un rouge-gorge au Canada, un rouge-gorge qui a donc quitté l'Europe, a traversé l'Atlantique, on ne sait pas comment, et s'est retrouvé au Canada, et donc ça a fait la une des journaux canadiens il y a quelques semaines.
Tout à fait, sans doute aussi aidé par un bateau comme le Martin Pêcheur d'Amérique. Donc c'est un drôle de chassé croisé de plumes au-dessus de l'Atlantique, vous voyez. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit d'émissaires de la diplomatie des oiseaux qui viennent s'enquérir de ce qui se passe en Europe, puisque vous savez qu'en ce moment, entre les États-Unis et la France, il y a pas mal de sujets d'actualité encore aujourd'hui, suite aux dernières déclarations du président Trump. Donc je me dis que d'une certaine manière, les oiseaux vont s'enquérir de ce qui se passe d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique.
Et alors, en France, il y a une terre sainte, la sainte terre de la coche française, c'est l'île d'Ouessant.
Ben, l'île d'Ouessant, c'est une des îles, alors il n'y a pas que l'île d'Ouessant, mais c'est une des îles au large du Finistère où il y a eu pas mal de cocheurs, d'observateurs d'oiseaux qui sont allés là-bas et ont découvert des espèces, notamment nord-américaines, qui avaient franchi l'Atlantique, parce qu'on est aux avant-postes du continent de la vieille Europe. Et donc c'est vrai que l'arrivée d'oiseaux nord-américains se fait à la faveur de phénomènes météo, parfois à l'automne, souvent à l'automne, qui permettent d'observer des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Donc c'est un peu une terre, un avant-poste pour observer des gags, si vous voulez. Et donc il y a toute une histoire des gags là-bas, je ne vais pas égrener, mais des oiseaux fabuleux qui ont pu être vus là-bas, d'Amérique du Nord, d'Asie, de Russie, enfin voilà, et c'est incroyable. Au-delà du fait que l'île d'Ouessant est une très très belle île d'un point de vue sauvage.
Et la dernière phrase de votre livre « Éloge des oiseaux de passage » est une question. La lumière des oiseaux est finalement un éclair d'éternité dans nos vies de passage. Et alors je me suis posé la question, pourquoi est-ce une question et pas une affirmation ?
Alors disons que je laisse le lecteur répondre à ça. Moi, pour moi, c'est plutôt... moi, j'ai une petite idée sur la question, parce qu'effectivement, je pense que les oiseaux sont un cumul de beauté, hein, par le chant, par le vol, par les couleurs. Je vous disais que c'est le surgissement d'une grâce. Leur présence... est une joie, enfin incarne pour moi la joie, un rayon de lumière dans le quotidien. Et je trouve que les oiseaux ont cette capacité de restaurer la beauté du monde quand on pense l'avoir perdue. Il y a bien des raisons aujourd'hui dans notre époque, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient notamment, de voir le ciel s'assombrir. Et quand vous avez un oiseau qui apparaît, je trouve qu'il a cette capacité de faire déchirer les nuages et de vous montrer la lumière. En tout cas pour moi c'est ça, et c'était le sens d'une déclaration d'amour aux oiseaux sur cette question finale du livre.
Oui, l'ornithologie, comme la poésie, nous rend en offrande tout ce qui nous fait défaut. Je vous cite, « L'observation attentive des oiseaux est un refuge face à cette frénésie qui acidifie notre quotidien. Plus rien ne semble avoir de permanence. C'est une pratique presque méditative qui permet de renouer avec ce qui nous fait cruellement défaut. L'ornithologie, comme la poésie, nous rend le temps en offrande. » Elle est magnifique cette phrase, « L'ornithologie, comme la poésie, nous rend le temps en offrande. » Elle est même devenue mon antidote pour résister à cette épilepsie contemporaine. C'est donc ce qui est écrit dans ce premier ouvrage, Jean-Noël Riffel, Éloge des oiseaux de passage, journal d'un ornithologue un peu perché. C'est le sous-titre, c'est publié aux éditions Équateur, c'est sorti en mars 2023. Nous allons pour le moment marquer une courte pause, Jean-Noël, et nous reviendrons dans quelques minutes pour évoquer votre second ouvrage, publié lui en avril 2025, il y a un an, Aimé comme un albatros. À tout de suite.
Alpha.
Merci d'écouter l'Alpha 10-13. Je suis encore et toujours avec Jean-Noël Riffel, directeur de l'OFB de la région Centre-Val-de-Loire, naturaliste, ornithologue, mais aussi auteur. Il a publié en mars 2023 l'Éloge des oiseaux de passage, journal d'un ornithologue un peu perché. Nous avons parlé de ce livre il y a quelques instants et maintenant nous allons parler de son second ouvrage publié en avril 2025. Il s'appelle « Aimé comme un albatros » publié aux éditions Équateur. Ce second livre qui est comme une cicatrisation après un divorce, Jean-Noël Riffel, vous cherchez dans la nature, par les oiseaux à comprendre ce qui s'est passé, à déceler un moyen d'aller mieux. « Aimé comme un albatros » aurait pu aussi s'appeler de la cicatrisation du cœur par les plumes. Et c'est ça ce que l'on croit au début de la lecture, puisque très rapidement, on comprend que ce livre est aussi une déclaration d'amour à la Loire, à la région que vous habitez, et surtout à Maurice Genevoix. Mais donc, commençons tout de suite par évacuer cette question, si vous le voulez bien, celle qui a fait naître finalement ce second livre, la question du divorce. Et le moment où le divorce s'annonce, vous en parlez magnifiquement, je vous cite. La canicule sévissait, l'atmosphère était anormalement étouffante, 38 degrés à l'ombre, l'appartement était exigu, une chambre sous comble en duplex, une unique fenêtre, un huis clos familial asphyxiant. Depuis 5 mois, notre couple était en effet assiégé par un vent mauvais. Ce soir-là, la décision fut prise, nous allions divorcer. Le couperet venait tomber, brutal et lapidaire. Un abîme s'ouvrait devant nous avec 3 cavités. La tristesse, l'angoisse et le désespoir, tout prit fin à jamais dans ma tête. Le modèle familial défendu pendant 10 ans volait en éclats. Cela n'arrivait pas qu'aux autres. Nous n'étions plus 4, mais 1 contre 1, avec 2 jeunes enfants. Le temps s'est alors arrêté, comme les pendules de la maison de Napoléon affichant l'heure de sa mort sur 17h49, crépuscule d'un empereur, crépuscule d'un couple. À l'annonce du divorce, vous le dites aussi, vous êtes comme Icare dans le tableau de Bruegel. Et vous écrivez ce second livre.
Tout à fait. Ce livre part effectivement de cette expérience douloureuse qui finalement est assez banale puisqu'un francilien sur deux est concerné par cela. Mais c'est vrai que l'amour est ailé et le divorce brûle les ailes, les consume. Et donc je suis sorti de ce divorce comme un oiseau qui sort d'une marée noire intime, c'est-à-dire les ailes mazoutées, et comme un oiseau de mer qui a perdu cette capacité d'envol. Donc c'est pas un récit doloriste, c'est pas un récit impudique, bien au contraire, c'est comme vous l'avez dit, c'est un chemin de cicatrisation, un chemin de reconstruction, un chemin de lumière. Donc le propos du livre est un propos lumineux, et ce livre a été pour moi un jaillissement de mots, une écriture qui m'a libéré, m'a soigné évidemment, une sorte de thérapie par l'écriture, Ce livre, moi, le sens du propos de ce livre, c'est vraiment cette lumière, retrouver des capacités d'envol et de lumière via les plumes des oiseaux. On en a parlé précédemment, hein, je dis souvent, ce sont des poids-plumes, ces oiseaux qui allègent le poids de nos existences. Voilà, ils nous apportent de la joie et de la lumière. Olivier Messiaen disait, ils sont les petits serviteurs de l'immatériel joie, hein, ce compositeur qui a fait des œuvres absolument magnifiques, inspirées des oiseaux. Je trouve que c'est très juste, les oiseaux, dans des moments douloureux, nous apportent de la joie. Et puis, vous l'avez dit, on va y revenir, c'est la plume évidemment salutaire et humaniste de Maurice Genevoix, traversée par la Loire. J'ai la chance de pouvoir, là où je réside, à la chapelle Saint-Mémin, près d'Orléans, de pouvoir faire mes révérences quotidiennes à ce fleuve dont la présence m'est indispensable aujourd'hui.
Et dans votre second ouvrage, Aimer comme un albatros, on va en parler d'ailleurs de ce titre et de l'albatros, il y a toujours autant de références. Vous mobilisez Olivier Messiaen, le compositeur dont vous parliez, mais aussi Kathleen Rynne, disciple de William Blake, l'Odyssée d'Homère, Friedrich Hölderlin. D'ailleurs, dans le premier livre, dans l'Éloge des oiseaux de passage, il y a d'innombrables références culturelles et surtout des comparaisons qui, moi, m'ont beaucoup plu. J'en ai noté toute une liste. Le chant du merle vous fait penser aux premières notes du Köln Concert de Keith Jarrett. Les Dithlis cristallins du rouge-gorge à l'air de This Autumn de Chet Baker. Le chant du loriot vous transporte au cœur des jungles peintes du douanier Rousseau. Le chant du rossignol vous fait penser à la tessiture des plus longs tuyaux des jeux d'orgue. Le hibou grand-duc vous fait penser aux sculptures de François Pompon. Les tris de l'alouette vous renvoient tantôt aux travaux des champs sous la chaleur assommante dans les tableaux de Jules Breton, tantôt aux envolées free jazz, j'aime beaucoup ça, de l'album Giant Step de John Coltrane. Le plumage du chardonneret élégant vous fait penser à l'arlequin de Manet. C'est important pour vous de toujours faire des connexions entre culture et nature.
Alors oui, c'est important parce que les oiseaux, c'est pas quelque chose qui est uniquement pour les sociétés naturalistes savantes. C'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure, quand vous entendez un chant d'oiseau, ça vous évoque des circonstances d'un voyage, vous l'avez dit, au Japon, chacun a ça en nous. Et puis, pour chacun d'entre nous, je suis sûr que ça peut faire des évocations, susciter des évocations littéraires, poétiques, picturales, cinématographiques, musicales. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à mon modeste niveau, sans me faire passer pour Baudelaire, mais en tout cas de jouer le tissu un petit peu des correspondances, voilà, parce que les oiseaux et l'art, c'est pour moi intimement lié, et donc il y a des peintres qui les ont magnifiquement représentés, il y a des concertistes qui, comme Messiaen, qui ont fait des choses fabuleuses, il y a des poètes évidemment qui, comme Baudelaire et son albatros, on va y revenir, qui l'ont fait merveilleusement. Donc pour moi, c'était important de tisser ce lien émotionnel avec des évocations dans l'art au sens large, voilà.
Dans ce second ouvrage, vous recommencez une critique du tout technologique initiée dans le premier ouvrage. Vous déplorez l'homo confortus qui accumule les biens matériels, porte au nu la technologie et met à distance la nature, et qui vit cet homo confortus dans une époque, je vous cite, en surchauffe où tout bouillonne. Ça ne vous quitte pas, cette préoccupation?
Non, effectivement, ça c'est quelque chose avec lequel je suis assez fâché. mais vous l'avez compris, ça ne m'enlise pas. C'est-à-dire, je cherche de trouver des alternatives à tout ça, et je les trouve notamment, évidemment, en trouvant refuge dans des endroits où la nature me comble. Ce livre est parti aussi au départ d'une nouvelle géographie personnelle, hein, puisque j'ai déménagé, je me suis installé vraiment dans une thébaïde, un petit peu sur les bords de Loire. C'est un lieu inspirant, voilà, dans lequel je trouve en tout cas avec la Loire et les oiseaux qui la peuplent, une présence salutaire par rapport à ce que vous citiez. Mais encore une fois, hein, je ne suis pas fâché avec la technologie. Vous voyez, j'ai mes deux téléphones à côté de moi, face à vous.
Et oui, et pendant la pause que nous venons de marquer, vous vous êtes jeté sur votre ordinateur pour répondre à des mails, donc voilà. Vous vivez dans votre temps aussi.
Tout à fait, voilà.
L'expression « oiseau de passage » fait son apparition dans le second ouvrage à la page 36. Il nous invite, vous écrivez, au déracinement, à l'apprentissage des ruptures. Et évidemment, cette expression « oiseau de passage », qui est le titre de votre premier ouvrage, « Éloge des oiseaux de passage », est ici directement, intimement lié à cette question du divorce. Le saviez-vous lors de l'écriture de votre premier ouvrage, qui justement s'appelle « Les oiseaux de passage », que vous alliez devoir traverser cette expérience du déracinement, de l'apprentissage des ruptures ?
Disons que je ne le savais pas au démarrage de l'écriture de mon premier livre, mais ça s'est dessiné sur la fin, et la fin de mon premier livre est une amorce, je dirais, du second, c'est-à-dire j'évoque entre les lignes par la présence notamment du rouge-gorge interrogateur qui vient me voir dans un moment un peu difficile à la fin du premier livre. J'amorce un petit peu cette perspective là, mais disons non, j'avais pas imaginé à quel point c'était un déracinement, à quel point ça allait être douloureux à ce point-là.
Et alors, il y a une figure qui hante ce second livre, Aimé comme un albatros, c'est la figure du grand écrivain aujourd'hui panthéonisé, Maurice Genevoix, que l'on connaît surtout pour ses écrits de guerre, mais qui a ici aussi été un grand auteur régionaliste, on dirait aujourd'hui, naturaliste. Je pense notamment à son prix Goncourt, qui est l'un de ses grands romans naturalistes, Rabolio. Genevoix qui fait son apparition à la page 52, et qui, lui aussi, s'inquiétait ou était fâché de son époque. Finalement, je vous cite, Maurice Genevoix s'inquiétait de la virtualisation du monde sous l'emballement de la technique et de la tyrannie du machinisme. Il craignait que la course au progrès et la distanciation aux réalités sensibles ne perdent les hommes. L'homme est un participant de l'univers, non le maître absolu. Il clamait l'urgence de retourner aux réalités intemporelles, cette nature dont la poésie nous remplit de richesses, nous comble et en définitive rend notre vie plus intense.
Tout à fait, Maurice Genevoix, alors sous bien des aspects, était un écrivain visionnaire. Il disait aussi, on abîme nos enfants, il faut maintenir les enfants dans un climat poétique. L'amour des choses de la nature qui nous aide à vivre, où ils vivent tout naturellement et qui n'a que trop tendance, hélas, à se faner, à s'étioler et à disparaître. Il faut annexer la nature à l'être. Et je trouve que ça, c'est un axiome de vie, ça il l'a dit en 1969. Donc vous voyez, en la matière, il était vraiment visionnaire sur ça. Donc moi, Maurice Genevoix, ça a été pour moi, dans cette période, un phare dans la nuit. Alors Maurice Genevoix, il faut savoir qu'il a vécu non loin d'Orléans, sur les bords de Loire, au Vernel. Vous voyez, dans Vernel, en plus, il y a elle, bon, on y reviendra. Mmh. Donc c'était un grand amoureux de la nature et des oiseaux.
Vous faites comme les alchimistes, vous parlez la langue des oiseaux, là.
J'essaye. Mais Maurice Genevoix, voilà, a été pour moi un guide. C'est évidemment le grand écrivain panthéonisé qui a rédigé des écrits de guerre absolument de référence pour montrer l'horreur et la barbarie des tranchées et de ce qu'il a pu vivre là-bas. Mais c'est aussi un écrivain naturaliste hors pair. C'est l'écrivain qui exhorte à cette philosophie, encore une fois, du sensible, à la porosité des sens, à cette vision charnelle du monde. Et lui, c'est un peu, si je devais résumer un petit peu dans ses écrits naturalistes ce qu'il exprimait, c'est « je ressens, donc je suis ». Hein. Il est bien moins important de savoir que de ressentir. Et chez lui, voilà, il a célébré en tout cas dans ses livres la beauté universelle de la nature, notamment des oiseaux, mais pas que, la beauté de la Loire. Ça a nourri son écriture et pour lui, ça l'a sauvé dans trois moments difficiles de sa vie. Au retour, évidemment, de la guerre de 14 où il a été gravement blessé, lorsqu'il a perdu très jeune sa maman. Et lorsqu'il a perdu sa première femme au bout d'un an de mariage. À chaque fois, c'est la nature qui l'a remis en selle, qui l'a remis au monde. Voilà, c'est cette présence avec la Loire, les oiseaux de la Loire, mais c'est aussi, quand il est parti, quand il a perdu sa première femme, ce voyage qu'il fait dans les Rocheuses au Canada où il va se confronter à une nature brute, sauvage, qui l'a sauvé.
Et cette phrase que j'ai citée de Genevoix il y a quelques instants, l'homme est un participant de l'univers, non le maître absolu, est absolument magnifique puisqu'il balaie toute hiérarchie. D'ailleurs, cette phrase m'a fait penser à celle du philosophe Spinoza dans la préface de la troisième partie de l'éthique qui écrit « L'homme n'est pas comme un empire dans un empire ».
Tout à fait, c'est une belle synthèse, c'est-à-dire loin de l'hubris où on voudrait sculpter la nature comme on souhaite, où on voudrait la dominer, la hiérarchiser, alors qu'on n'en est qu'un modeste participant.
À quoi nous invite Maurice Genevoix, très précisément, Jean-Noël Riffel ?
Alors, c'est quelqu'un qui nous invite à faire de chaque jour une joie. Ça, c'était vraiment aussi... Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « La joie ». Malgré toutes les tragédies qui sont venues percuter sa vie, lire Genevoix, c'est une ode à la vie, c'est célébrer l'éclat de vivre. C'est un sage aussi, Maurice Genevoix. Il a une pensée qui nous guide et nous aide à affronter la gravité de notre époque. Voilà, c'est quelqu'un qui incarnait de hautes valeurs morales, un humanisme sans faille, une fraternité, je dirais, et ça c'est quelque chose de très important, me semble-t-il. Encore une fois, dans une époque où la fraternité est abîmée, cette fraternité entre les hommes, bien entendu, et puis cette fraternité entre les règnes animal, végétal. C'est-à-dire que c'est l'écrivain Maurice Genevoix qui réconcilie l'ensemble du monde dans une interpénétration des règnes. C'est-à-dire, encore une fois, l'homme est lié à la nature et c'est un continuum. Voilà, ça, il l'a vraiment célébré. Donc, je trouve que c'est un très beau message, voilà, d'une existence, je dirais, incarnée, enracinée. Dans un siècle déraciné, où on célèbre les formes d'écologie de la joie, voilà, avec des forces de solidarité, de fraternité, un appétit de vie, voilà, malgré l'horreur qu'il a pu lui voir et que certains d'entre nous peuvent traverser parfois.
Maurice Genevoix, l'auteur qui nous invite aussi, je vous cite, à une philosophie du sensible, la nature qui nous offre des instants de grâce. Maurice Genevoix les sculptait, c'est au-delà des apparences qui ressemblent à ce que l'on sent. Il nous exhorte à nous émouvoir, mais aussi à reconnaître en l'autre, c'est-à-dire le non-humain, un peu de soi, de cette beauté universelle dont nous sommes tous pénétrés, l'émerveillement et la condition de notre salut, chantre de cette écologie. Genevoix restitue la charge émotionnelle de la nature. Genevoix est l'un des premiers écologistes, finalement.
Oui, c'est quelqu'un qui a eu cette capacité à jouer les médiateurs entre le visible et l'invisible, à être un intercesseur de la vie sauvage. Son personnage de Rabolio, son personnage de Rémy Desroches, ce sont des glaneurs du sentiment poétique de la nature. Ce sont des gens qui nous guident vers l'essentiel. Parce que dans la nature, on est dans notre vérité première, je pense. On est loin de l'artificialisation que parfois la vie peut prôner avec l'intelligence artificielle, la digitalisation, la vitesse, etc. Et donc vivre en communion avec la nature et épuiser un profond bien-être. Voilà, je trouve que c'est un messager de tout ça. Et puis il porte en lui, dans son propos, une responsabilité. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous pousse à agir de façon à ce que notre action soit compatible avec le maintien de la vie sur Terre. Enfin, voilà, je pense que lui, vraiment dans ce sens dans ce rôle de célébrer les secrets du peuple sauvage, des animaux, de la Loire, etc. Et puis cette admiration pour ces hommes qui étaient ce qu'il nommait des voyants privilégiés de la nature, qui avaient cette capacité, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure dans mon premier livre, c'est-à-dire d'avoir une disposition, une capacité d'attention, des sens en porosité avec le monde qui les a comblés et qui les restitue très bien. Voilà.
Et vous avez de très nombreux points en commun avec Maurice Genevoix, on l'entend, et je vous cite, au fur et à mesure de mes recherches, je découvrais à quel point les oiseaux furent les compagnons secrets de Maurice Genevoix tout au long de sa vie. Nous avions en commun ce que j'appelle le syndrome du marronnier. Alors expliquez-nous cet autre point en commun, le syndrome du marronnier.
Alors, le marronnier, moi, c'était l'arbre quand j'étais en classe, en primaire. J'avais les yeux, par moments, qui étaient un peu distraits, qui regardaient vers la fenêtre pour essayer de voir des oiseaux, notamment. Et il y avait un marronnier au milieu de cette cour d'école qui était quand même très bitumé. Mais il y avait, pas qu'un marronnier, il y en avait plusieurs, mais mon regard était souvent tourné vers ce marronnier pour essayer de voir des oiseaux qui pouvaient s'y percher. Et Maurice Genevoix en parle un petit peu de manière similaire lorsqu'il était notamment à Lacanal en prépa, mais aussi avant au lycée à Orléans, où dans la cour, le marronnier l'aidait, était un échappatoire vers d'autres ailleurs, d'autres horizons que les oiseaux incarnaient. Et Maurice Genevoix, c'est effectivement un grand, je me suis rendu compte en lisant une grande partie de son œuvre, que c'est un grand connaisseur de la nature et des oiseaux, et que les oiseaux l'ont accompagné tout au long de sa vie, y compris lorsqu'il était dans les tranchées. Il était capable de s'émerveiller de la poésie des oiseaux, d'un merle surgissant d'un bosquet au milieu des déluges de feu de la Grande Guerre.
Et là, il nous fait penser à Jacques Delamain.
Tout à fait,
qui absolument. A écrit littéralement un journal de guerre
d'un ornithologue
où Jacques Delamain était donc sur le front, dans les tranchées, pendant la Première Guerre mondiale. Et alors, pendant que ça tirait dans tous les sens, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'entendre le merle, de voir passer l'accenteur mouché, d'entendre un rouge-gorge.
Absolument, et c'est ça sans doute qui l'a tenu, elle l'a raccroché à la vie alors que la mort régnait tout autour de lui. Et Genevoix, il a eu vraiment une expérience absolument similaire. Et puis, à la fin de sa vie, petite anecdote, Genevoix laisse 3 octosyllabes sur le bureau d'Evernel où il résidait, et ces octosyllabes, c'est un peu de rouge autour du bec, un peu de jaune au bord des ailes, et soudain, c'est la poésie. Et il parle du chardonneret élégant, petit oiseau bariolé magnifique que j'ai vu en arrivant chez vous ici.
Oui, c'est ça, c'est le chardonneret qui vous a accueilli à Radio Alpha.
Qui m'a accueilli en chantant Radio Alpha, merci de votre accueil, j'avoue que c'était une symbolique forte au milieu, tout près de la Quatre Voies et à 2 pas du lac de Créteil, le chardonneret, donc la poésie était là, devant les bureaux de Radio Alpha.
Le chardonneret élégant qui s'appelle le Pintassilgo en portugais. Ce second livre s'appelle donc « Aimer comme un albatros ». Parlons-en de cet oiseau, l'albatros. Pourquoi figure-t-il dans le titre de ce second ouvrage ?« Aimer comme un albatros », qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, pour plusieurs raisons. Bon, c'est un petit clin d'œil évidemment à l'albatros de Baudelaire, qui est un oiseau. Alors moi, c'est un oiseau, l'albatros, qu'on verra quasiment jamais, parce qu'il vit dans l'hémisphère sud, aux confins du monde. Et c'est un oiseau fascinant à plus d'un titre. Déjà, c'est un emblème de la biodiversité menacée à l'autre bout du monde, puisque cet oiseau, vous savez, disparaît de plus en plus, victime de plusieurs facteurs, encore une fois, de la pollution plastique. Hein, donc, c'est tous ces plastiques qu'on rejette qui finissent dans l'océan. Vous savez qu'il y a des continents en plastique dans l'océan, et ces plastiques sont ingérés par les oiseaux de mer, et ça engendre évidemment une mortalité. Vous savez qu'aujourd'hui, on a l'équivalent d'une cuillère en plastique dans le cerveau. Hein, ça a été démontré. Donc ces oiseaux de mer vivent au milieu du plastique de plus en plus en raison de la manière dont on gère ça ici même encore en France. On n'est pas les seuls responsables, mais en tout cas ça impacte ces espèces d'oiseaux fascinantes à l'autre bout du monde. Il est victime aussi de la pêche à la palangre. Hein, donc ça c'est la pêche des modalités de pêche où en fait il y a des sortes de barbelés des mers. Moi j'appelle ça dans mon livre, c'est-à-dire c'est des hameçons des kilomètres de hameçons, des milliers d'hameçons qui sont dispatchés dans l'océan pour la pêche, et en fait les albatros viennent se nourrir à la surface de l'eau et se crucifient les ailes là-dessus. Donc il y a 100 000 albatros de mémoire qui meurent chaque année dans le monde. Donc c'est une espèce, voilà, c'est un colosse aux ailes d'argile, cet albatros, et puis c'est un oiseau fascinant d'un point de vue au-delà du fait qu'il soit menacé par l'homme. C'est un oiseau fascinant dans son mode de vie. Chez lui, tout est intensité, immensité, longévité. Vous avez vu peut-être encore dernièrement l'histoire de cet albatros qui s'appelle Wisdom, sagesse, voilà, qui vit sur l'île d'Hawaï, qui a 75 ans.
C'est une histoire très récente.
Très récente, voilà, dont la presse s'est fait écho encore, enfin, les médias s'en sont fait écho encore, pas plus tard qu'hier. C'est une albatros, donc l'albatros peut vivre jusqu'à 80 ans, voilà, on sait, donc, et cet albatros de 75 ans avait perdu son congénère et a eu un poussin, a eu plusieurs poussins, là, dernièrement, et encore un, là, c'est dernièrement. Donc, l'amour n'a pas d'âge, c'est Albatros. La reproduction, le fait d'avoir un poussin peut se faire à des âges avancés. Et puis, c'est un oiseau qui, dans sa manière d'aimer, je parle bien d'aimer, parce que nous n'avons pas le monopole de l'amour, comme nous n'avons pas le monopole du chagrin, du deuil, c'est-à-dire que ça a été démontré chez les oiseaux.
Le fameux monopole du cœur.
Voilà, tout à fait. Ça a été démontré. Les oiseaux, c'est ce qu'on appelle la sentience animale, peuvent éprouver des sentiments un peu amoureux. Notamment, ça a été démontré chez certaines espèces, des sentiments de deuil, hein, notamment chez les corvidés. Et donc, l'albatros est fidèle en amour dans 95% des cas. Et il est lié à son partenaire toute sa vie, sauf accident. Et ce sont des individus qui se séparent et se retrouvent et se fêtent et se livrent à des parades nuptiales très chastes, très jolies, très élégantes. La séduction est un art et ça passe par du lissage, notamment de plumes, ce lien tactile qui les lie, et par des révérences, des pantomimes qu'ils réalisent pendant une quinzaine de minutes pour fêter leur présence, où ils se livrent à un escrime des becs, à des éventails avec leurs immenses ailes, parce que c'est quand même l'oiseau qui fait 3,50 m d'envergure aussi. Donc c'est l'oiseau de tous les superlatifs, à la fois par la taille, par sa manière d'aimer, par sa manière aussi d'élever un poussin, c'est-à-dire que les albatros élèvent un poussin une fois, c'est pas comme les mésanges qui font plusieurs nichées, c'est-à-dire que le poussin est élevé dans une parité exemplaire où le mâle et la femelle se relaient. Et puis c'est un oiseau aussi de la temporalité, on y revient, lente, c'est-à-dire que il attend 5 à 9 ans avant de pouvoir se reproduire. Et tout est dévolu pour un seul poussin. Voilà. Donc c'est et aujourd'hui, c'est vrai que comme on voit bien l'accélération du changement climatique, le bouillonnement de la planète vient l'impacter à l'autre bout du monde. Donc pour ces espèces qui sont dans un schéma de temporalité lente, elles sont aujourd'hui percutées par ce bouillonnement qu'on génère.
Et on va parler de vos poussins, vos deux poussins qui étaient des roitelets dans le premier ouvrage, qui deviennent au moment de votre divorce des grébillons, et puis finalement deviennent de jeunes albatros. Je vous cite, j'avais la conviction que mes fils, désormais âgés de 9 et 11 ans, n'étaient plus deux roitelets, mais deux jeunes albatros, des petits princes dénués du vivant. Curieux, attentifs et vifs, ils avaient l'œil grand ouvert sur le monde, ils savaient déployer leurs ailes pour contempler cette foule de plumes, d'écailles et de poils. Tous ces drôles de gens, cher Amondo, le héros de l'Ecclésio, faisaient partie de leur royaume, ils étaient nos voisins.
Oui, c'est une manière aussi de rendre hommage à mes enfants par rapport à l'épreuve qu'eux aussi ont traversée avec moi et la manière dont ils s'en sont emparés, ils en sont transformés, ils en sont grandis. Dans un appétit de vie qui vous pousse toujours plus à garder cette énergie, en tout cas au quotidien. Et puis un petit clin d'œil aussi sur leur manière d'avoir progressé progressivement aussi dans ce regard naturaliste qu'il commence à porter, à développer.
Et alors vous évoquez dans ce livre, Aimer comme un albatros, que vous réapprenez à être père grâce à l'alite accoucheur. Racontez-nous ça.
Alors chez l'alite accoucheur, l'alite accoucheur c'est un petit crapaud.
C'est un crapaud accoucheur.
Voilà, c'est le crapaud flûteur, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de faire ce son quasiment de flûte traversière lorsqu'il chante au printemps. Et en fait, c'est le mâle qui s'occupe de la progéniture et non pas la femelle. Donc c'est le mâle qui a un chapelet, on l'appelle l'accoucheur, voilà, mais il a un chapelet d'œufs qu'il porte sur son dos.
Oui, l'alite accoucheur et le papa poule.
Voilà, c'est le papa poule et c'est loin d'être le mâle alpha.
Exactement. Et alors, il vous a réappris à être père vous-même?
Oui, parce que quand vous êtes, quand vous viviez dans un fonctionnement monoparental, évidemment, c'est quelque chose qui vous impose aussi de revoir la manière dont vous vous occupez de vos enfants. Et en tout cas, le divorce pousse aussi à ça, ce chemin de vérité sur pas mal d'aspects, mais notamment sur le rapport aux enfants et la paternité. Disons que ça m'a ce crapaud, ce talit accoucheur qui se mouille totalement pour sa progéniture, c'était pour moi une jolie symbolique.
Et alors ce roman né donc de cette expérience du divorce vous a permis de rencontrer, disons-le, Maurice Genevoix, qui a été véritablement l'écrivain de votre reconstruction, écrivain avec lequel, aujourd'hui panthéonisé, je le rappelle, il repose au Panthéon parisien, Maurice Genevoix, avec lequel vous avez tant de points en commun. Et au-delà de Maurice Genevoix, c'est aussi la Loire que vous célébrez dans ce livre. Que représente la Loire à vos yeux, Jean-Noël Riffel, le plus long fleuve de France?
Voilà, ce qu'on dit souvent, le dernier fleuve sauvage de France, la Loire. Je vous disais, j'ai la chance de la voir depuis mon balcon. C'est le fleuve vraiment protéiforme qui change continuellement de physionomie, d'humeur, de reflets. C'est un fleuve de nuances, de variations. C'est le miroir du ciel. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui résume bien ce qu'est la Loire. C'est « L'histoire l'a faite grande », avec ses châteaux de la Loire, notamment François Ier, etc. La nature l'a faite belle. Voilà, et la Loire, c'est ça. Et pour moi, c'est une présence réconfortante, c'est un baume fluvial, comme elle était pour Rémy Desroches, le personnage de Maurice Genevoix.
Dans le roman éponyme, Rémy Desroches.
Voilà, pêcheur, exactement. Moi, la Loire, c'est... elle dialogue tout le temps, c'est un peu le fleuve alchimiste qui transforme au soleil couchant l'eau en or. C'est ce fleuve qui dialogue sans cesse avec le ciel. Donc moi, elle traverse mes pensées diurnes et mes rêveries nocturnes, je dirais, et elle charrie mon sommeil vers la mer. Et c'est voilà, c'est un fleuve qui m'aide à prendre congé aussi du monde. Voilà, dans son lent écoulement, comme un tapis roulant qui pour moi a signé voilà une évasion progressive. Et la contempler, c'est un travail de lecture profonde, un exercice de lecture profonde.
Oui, vous avez des descriptions absolument superbes de la Loire dans ce second livre. Je vais d'ailleurs maintenant vous citer longuement. J'ai confié à ce fleuve, la Loire, tant de choses. Les bords de Loire où je vis ne sont plus seulement un ici géographique, mais également un ailleurs invisible devenu familier. J'ai l'impression qu'ils ont épousé les moindres replis des trois dernières années de ma vie. La Loire y a dessiné une figure harmonieuse. J'ai trouvé dans ce milieu une énergie vitale, un centre, mon ombilique. La quête d'un lieu recouvre une quête de soi. La Loire m'a transmis son pouvoir aquatique, cette lumière qui ouvre vers des profondeurs. J'y ai vécu un affranchissement mêlé à un effacement progressif de mon passé douloureux. J'y ai gagné une nouvelle transparence intérieure. J'espérais qu'une fois devenu grand, mes garçons continueraient à faire vivre le privilège de se tenir les sens ouverts devant la Loire. Ils sentiraient alors ma présence à leur côté. Le paysage de la Loire aura encore changé. De nouvelles essences d'arbres, espèces d'oiseaux et de poissons seront apparues. D'autres se seront définitivement effacées. Mais de notre amour, rien n'aura changé. Je me fie le serment de vivre avec mes enfants là, dans cette beauté, cette communion sacrée de l'homme avec son milieu. Notre matrice de vie sera ce lieu où le peu du monde flamboie et avec lequel nous nourrirons des liens intimes. Je lui donnais le nom de terre outre-ciel. À cet instant précis, je savais au fond de moi que j'avais gagné l'amour de mes deux fils. La Loire aussi comme un passage de témoin.
Tout à fait, c'est la permanence de ce fleuve, en fait, qui est éternel, qui nous a précédés et qui nous succédera. C'est un fleuve du changement, de la renaissance au sens de l'histoire, mais aussi de la renaissance d'un point de vue des cycles de naturels, quand vous la voyez au fil des étiages et des crues se gorger d'eau par moment comme ces derniers mois, et puis être très asséché par moment où les sables, où l'impression que c'est quasiment une mer de sable, un fleuve de sable. C'est un fleuve, voilà, qui est capable de puiser des forces de vie, de résilience pour retrouver sa majesté toujours, et c'est voilà une présence douce et réparatrice qui moi me lie évidemment à elle et à mes enfants.
Je répète cette phrase, donc je vous cite à cet instant précis. Je savais au fond de moi que j'avais gagné l'amour de mes deux fils. N'aviez-vous jamais eu avant la certitude de l'amour de vos enfants?
Si, mais disons que le divorce est venu la questionner. Enfin, la questionner, disons, la percuter et la fragiliser. Voilà.
Vous disiez que, à l'instant, que vous aviez un rapport presque alchimique avec la Loire. Je vais vous citer. Le vol géométrique ordonné des grues cendrées m'a révélé la nécessité de vivre aligné. Au fond de moi, je sais à présent que lorsque je tomberai, les oiseaux me remettront sur pied. Quand je me disperserai, ils me recentreront. Quand je buterai, ils m'aideront à détailler l'obstacle qui se dresse devant moi pour mieux le franchir. Quand je m'obstinerai, ils me rappelleront le pouvoir de l'envol, changer de place pour reconsidérer les choses sous un autre angle et même parfois fuir pour être en paix et ainsi se réenraciner ailleurs. Aux côtés des nuées sacrées, on est relié à l'infiniment grand et surtout à soi. La présence des oiseaux est une invitation à renoncer à tout ce qui nous arrache à l'éclat de la vie. L'homme devient vraiment ce qu'il contemple. Les oiseaux ravivent notre intimité, nous obligent à l'exigence intérieure. Ce sont les oiseaux qui vous permettent, nous permettent donc de vivre immobiles, silencieux et alignés. Ça, c'est un grand précepte de l'alchimie.
Je suis convaincu que les oiseaux sont des petits maîtres de vie qui nous apprennent beaucoup de choses, ce que vous dites effectivement très justement. Une injonction aussi à vivre dans une présence au monde, c'est-à-dire pas être tout le temps projeté vers un futur relié au passé, mais vraiment être dans le présent, ancré dans ce présent, c'est ce qu'ils font dans leur quotidien. C'est aussi être toujours en mouvement, il y a un hymne à la liberté, au mouvement, à l'abnégation, pour continuer d'être en mouvement dans les moments même où vous êtes fracassé par un deuil, par ce qui peut arriver dans la vie. Ils ont cette capacité, ils connaissent pas de frontières, ils sont capables de se détacher des liens et je trouve que quand vous citiez les grues dans leur sel, dans le ciel, leurs arabesques dessinent pour moi des perspectives de vie, des lignes de vie, des trajectoires, de nouvelles routes pour retrouver dans les moments difficiles une paix, un réenracinement ailleurs. Et puis ils connaissent aussi les incertitudes, les oiseaux, hein, avec le changement climatique, on l'a cité, avec le braconnage, avec des maladies, la grippe aviaire, etc. Et donc ils sont confrontés comme nous à des tourments, des fracas, et malgré ça, les cycles de migration se perpétuent. Et je trouve que c'est un très beau message. Et puis je vous citerai un autre petit exemple. Vous savez, les oiseaux, lorsque avant de repartir en migration, ils perdent leurs plumes. C'est la mue qui leur fait dépenser de l'énergie. Et dans ces moments-là, ils se font discret pour justement ne pas être parce qu'ils sont plus vulnérables, parce que ça leur demande beaucoup plus d'énergie pour refaire leurs plumes, et on dit d'ailleurs que les oiseaux à ce moment-là ont leur plumage d'éclipse. Moi, ça m'interroge sur est-ce qu'on est encore capable dans notre époque, encore une fois, où on prône l'hypervisibilité, une forme d'agitation sur notamment certains réseaux sociaux, est-ce qu'on est encore capable de se draper dans un plumage d'éclipse, de se montrer discret, de s'effacer temporairement pour mieux réapparaître dans une nouvelle parure, dans une nouvelle livrée pour ce qui est des oiseaux?
Et de faire comme ces petits maîtres de l'invisible, c'est aussi comme ça que vous qualifiez les oiseaux dans ce livre. Vous évoquez à la fin de Aimer comme un albatros, une jeune femme au chignon blond, je vous cite, rencontrée sur la Loire, un moment sur la Loire en tout cas. Avez-vous retrouvé l'amour, Jean-Noël Riffel?
Oui. Aux côtés de cette jeune femme au chignon blond, voilà, tout à fait, absolument.
Donc ce second livre qui est né d'un divorce se termine sur une note positive, encore une fois liée à la Loire.
Absolument.
Puisque c'est un moment sur la Loire que vous décrivez.
Tout à fait. Oui. Où j'évoque notamment un petit clin d'œil à Valoton, avec un tableau. Ça m'a rappelé. On canotait sur la Loire au crépuscule pour observer notamment le castor d'Europe. Et on avait eu la chance de l'observer après une longue attente, une immobilité, le silence absolu, une quiétude. Et un moment d'alchimie, on revient à l'alchimie amoureuse. Voilà.
Dans le premier ouvrage, vous nous parlez magnifiquement de l'île d'Ouessant. Dans ce second ouvrage, il y a de très belles pages sur le Cap Fréhel que vous décrivez comme la République des oiseaux marins. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance ornithologique de ce lieu en France, le Cap Fréhel?
Alors moi, il a une importance personnelle parce que j'ai démarré tout jeune. J'allais là-bas observer les oiseaux de mer, mes premiers cormorants, mes premiers pingouins torda, mes premiers guillemotrolles. Et puis c'est un lieu effectivement important pour les oiseaux marins nicheurs en France. Hein, c'est ces falaises du Cap Fréhel où nichent les populations de pingouins torda, guillemots de Troyes, très importantes, de mouettes tridactyles. Donc c'est vraiment un bastion des populations d'oiseaux marins en France, et c'est un lieu magnifique. Alors on est à la lisière, c'est une forme de lisière marine, c'est un cap, c'est une avancée vers la mer. Les oiseaux se répartissent sur ces rochers comme dans des strates, c'est-à-dire tout en bas il y a les cormorants, un peu plus haut il y a les guillemots de Troyes, ensuite il y a les mouettes tridactyles, un peu plus haut au rooftop il y a les goélands. Donc chacun a sa zone, chacun a son comportement, un peu cet habitus bourdieus cartésien, c'est-à-dire sa manière de cohabiter, mais c'est une belle forme de cohabitation et de fraternité entre des espèces très différentes, avec des modes de reproduction, des modes d'alimentation différentes, mais qui se tolèrent. C'est, voilà, je trouve que c'est un très beau symbole de tolérance, ce Cap-Fréhel, tolérance de plumes.
Et donc le Cap-Fréhel, vous vouez aussi une affection profonde à la grande plage de Saint-Cast, cette longue courbe de sable de 2 km, je vous cite, et vous parlez également de Saint-Malo et de Chateaubriand, qui y repose, auteur français, et vous citez son épitaphe, « Un grand écrivain français a voulu reposer ici pour n'y entendre que le vent et la mer, passant, respecte sa dernière volonté, sa tombe érigée sur un roc solitaire, le Grand B se dresse comme une île funéraire au milieu de la mer inspiratrice, l'accès se fait par un chemin que l'océan recouvre deux fois par jour, le grand écrivain gît à distance du commun des mortels, et vous écrivez, cette phrase exceptionnelle, « Le son du romantisme de point, vivre en splendide isolé dans l'immensité ». Ça m'a fait penser au dernier ouvrage de Sylvain Tesson, Les piliers de la mer. Lui, il dit un peu la même chose. Il a envie d'aller vivre perché au-dessus de ces piliers de la mer, de ces stacks, comme on dit en anglais.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup Sylvain Tesson et son écriture. Et oui, et puis d'une certaine manière, c'est vivre dans la enfin, Chateaubriand est enterré dans la seigneurie des vagues et du vent, ce qui est le cadre de vie de l'Albatros aussi.
Je rappelle le titre de vos livres, Jean-Noël Riffel. Le premier s'appelle « Éloge des oiseaux de passage, journal d'un ornithologue un peu perché ». Le second s'appelle « Aimer comme un albatros ». Ils sont tous les deux publiés aux éditions Équateur. Je vous recommande évidemment, chers auditeurs et chères auditrices, vivement la lecture de ces deux ouvrages, de livres que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Jean-Noël Riffel pour
Merci
ce moment.
Merci à vous pour cette sympathique invitation.
Et alors, que peut-on vous souhaiter pour la suite de vos aventures ?
De garder en tout cas l'énergie d'écriture, voilà, qui est une ligne de vie. Voilà, et puis l'écriture, c'est voyager d'abord vers soi avant de voyager vers l'autre, et ça, c'est merveilleux.
À très vite, Jean-Noël.
Merci.